en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 12 et le 13 juin 2009, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé un colloque international sur les projets de croisade et leurs objectifs 13e, 17e siècle, en collaboration avec l'Agence nationale de la recherche de la Casa Velázquez. Quels étaient les conflits interconfessionnels et les sentiments identitaires des peuples en conflit à la fin du Moyen-Âge, en Europe, à une époque où le projet de croisade, d'abord orienté vers la Terre Sainte, se détourne de cet objectif lointain contre les menaces plus proches géographiquement des hérétiques et des Turcs. L'ambition de cette rencontre internationale d'historiens est de déterminer à travers les sources la spécificité du pays d'où écrit le chroniqueur et celle des régions à conquérir. Quelle forme prend cet impérialisme naissant d'après les termes du colloque ? Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jacques Paviot intitulée « L'idée de croisade à la fin du Moyen-Âge ». Retrouvons Jacques Paviot en grande salle des séances.
Comment parler de la croisade de la fin du XIIIe siècle au XVe siècle à partir de textes dus à des auteurs qui connaissaient l'Orient ou s'y intéressaient? C'est la période où le mot lui-même, croisade, apparaît dans les langues européennes, bien qu'il fût déjà connu en castillan chez Gonzalo de Berceo dès la première moitié du XIIIe siècle. Il apparaît en latin dans la décennie 1380 pour désigner des expéditions en Europe, une des forces papales contre la reine Jeanne de Naples, une autre, celle de l'évêque de Norwich, urbaniste, contre les flamands clémentistes. Le mot n'apparaît en français que vers 1475, sous la plume de l'indiciaire bourguignon Georges Châtelain, dans sa chronique, livre 4, chapitre 13, « Comment le duc, Philippe le Bon, alla en Hollande, en 1456, pour le fait de sa croisade, etc. » En fait, pendant toute la période considérée, on en est resté au terme plus ancien de voyage et plus récent de passage, sans oublier le terme moins usité de croisé. Pour les auteurs qui ont écrit sur le sujet, la croisade, telle que nous l'entendons généralement, était une évidence. Nul n'était besoin de la définir, alors que cela fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Il y avait cependant deux tendances que nous pourrions qualifier de topiques et d'universelles. Pour la tendance topique, la croisade était la libération, le recouvrement, la reconquête des lieux saints, de la terre sainte, de la terre de promission. Ainsi, le frère mineur Fidence de Padoue, à la suite du pape Grégoire X, parle en 1290-1291 de la libératio terrae sanctae, comment elle doit être acquise des mains des infidèles et conservée. Le projet était le même 30 ans plus tard pour le fils du duc de Naxos, Marino Sanudo Torcello. Recuperatio et conservatio terrae sanctae. À la fin du XIVe siècle, Philippe de Mézières rêvait d'un nouvel ordre de chevalerie, la Nova Religio Passionis Jesus Christi, nouveau peuple élu d'Israël, qui devait venger la lumière de la foi et conquérir la sainte terre de promission en suivant la prouesse de Godefroy de Bouillon. La tendance universelle se voit dès la chute d'Acre, dans les exhortations de Thaddée de Naples, que l'on lit à la suite de son Historia de Desolatione et de Conculcatione Civitati Aconensis et Otius Terrae Sanctae, rédigé en décembre 1291. Il s'adresse à Dieu, le priant de donner la force et la grâce aux chrétiens afin qu'ils puissent renverser ses ennemis cruels qui n'honorent pas son nom. Il s'adresse aussi au pape qui, comme vicaire du Christ parmi les nations, doit éradiquer le paganisme et redresser l'injure faite au Sauveur afin que son nom soit honoré à travers le monde entier. Raymond Lull, dans ses écrits entre 1294 et 1311, dans la pétition à Célestin V, dans celle à Boniface VIII, dans son Liber de Fine, dans son Liber de Acquisitione Terrae Sanctae, dans sa pétition au Concile de Vienne, peut être inscrit dans ce mouvement. Il préconisait cependant l'utilisation du gladium spirituale parmi les schismatiques et les tartares et du gladium corporale contre les sarrasins pour la conquête de la Terre Sainte. À la suite de Raymond Lull, le frère prêcheur Raymond Étienne, auteur du Directorium ad Passagium Faciendum, adressé au roi de France Philippe VI en 1332, et dont nous a entretenu M. Trouillet ce matin, donnait comme but au passage la diffusion de la foi catholique et le recouvrement de la Terre Sainte, mais se focalisait sur les Grecs, qu'il considérait comme un plus grand ennemi que les Turcs. L'incarnation de ce mouvement au XVe siècle s'est opérée dans la personne de Jean Germain, évêque de Chalon-sur-Saône, chancelier de l'ordre de la Toison d'Or et chantre de la croisade à la cour de Bourgogne. En 1449, il rédigea un ouvrage, la Map au monde spirituel, auquel était jointe une map monde, une carte, aujourd'hui perdue. Son propos est de fournir, je cite, « aucune bonne doctrine servant au bien de notre sainte foi chrétienne et confusion des ennemis d'Issel ». Et dans ce but, il a indiqué sur sa map monde, en dehors des informations géographiques, les lieux où ont vécu le Christ, sa mère, la Vierge Marie, les apôtres et les martyrs, confesseurs, vierges et veuves les plus renommés, pour montrer l'ancienne étendue de la chrétienté et la vérité de la parole de saint Paul aux Romains 18. Leur voix, celle des prédicateurs, a retenti par toute la terre et leur parole s'est faite entendre jusqu'aux extrémités du monde. Ces deux conceptions de la croisade nous donnent deux raisons, deux justifications, deux motifs principaux pour lancer une expédition, l'héritage et la prédication. Dès 1290-1291, l'héritage de la Terre Sainte était une notion clé chez Fidence de Padoue qui se fondait sur les Écritures. Lévitique 20-24. « Possédez la terre de ces peuples que je vous donnerai en héritage, cette terre où coulent des ruisseaux de lait et de miel. » Quelques mois après Fidence de Padoue, Thaddée de Naples appelait tous les fidèles à venger le bain de sang des chrétiens en Orient et à sauver par la force des armes la Terre Sainte, je cite, « qui est notre héritage ». Pour le prince arménien entré dans l'ordre de prémontré Eton en 1307, les chrétiens ont juste raison de faire la guerre aux Sarrasins qui occupent leur héritage, qui est la Terre Sainte, laquelle Dieu a promise aux chrétiens. Son contemporain, le grand maître de l'hôpital Fouque de Villaret, rappelait avec ses conseillers que ceux qui auront employé leur vie au service du Christ, en espérance de mourir pour lui comme il l'avait fait pour les futurs chrétiens, seront les héritiers du patrimoine de Jésus-Christ et seront appelés aussi au règne de Dieu le Père. Avant même que la menace des principautés turques d'Anatolie ne forçât certains auteurs à élargir leur horizon de croisade, Raymond Lull, dans son Liber Définé, datant de 1305, dénonçait l'infériorité numérique des chrétiens face aux infidèles nombreux qui accroissaient leur territoire par usurpation de ceux qui étaient chrétiens de droit. La prédication par les ordres mendiants, d'abord liée à la recherche du martyr, est un phénomène datant du XIIIe siècle, et c'est durant ce siècle que les frères mineurs et les frères prêcheurs ont reçu la tâche de prêcher la croisade. Comme c'est un domaine bien étudié par M. Richard, par M. Kédard et plus récemment par Mme Eulandena, je ne m'y attarderai pas. Relevons qu'en se fondant peut-être sur un passage de l'Épître aux Romains de saint Paul, qu'il ne me semble pas cité, il s'agit de l'Épître aux Romains 4:13, « Aussi n'est-ce point par la loi que la promesse a été faite à Abraham ou à sa postérité d'avoir tout le monde pour héritage, mais pour la justice de la foi ?» Donc peut-être avec l'aide de cette citation, certains auteurs considéraient que le monde appartenait de droit à l'Église romaine. Ainsi, est-on en 1307, que je me permets de citer à nouveau, « car la sainte sacrée romaine Église, qui est dame et maître de tout le monde, a bien pouvoir, par la grâce de Dieu, avec l'aide des rois et des princes de la chrétienté et des féaux du Christ croisé, de délivrer le Saint-Sépulcre et la Terre Sainte du pouvoir des Sarrasins, laquelle ils tiennent pour nos péchés. » La prédication pouvait être sélective. Pour Raymond Lull, ainsi que j'ai déjà fait allusion, il fallait d'abord convertir les Tartares avant les musulmans ou les juifs, selon sa pétition à Célestin V de 1294. Puis, dans celle à Boniface VIII, convertir les Grecs et les schismatiques au moyen de disputes théologiques et par la raison, mais utiliser la force des armes contre les Sarrasins. Cependant, dans son Liber Définé de 1305, il préconisait l'enseignement des langues orientales et l'emploi du gladium spirituale vis-à-vis des infidèles, c'est-à-dire, dans ce traité, les Sarrasins, les schismatiques, il entendait par là les Jacobites et les Nestoriens, les Tartares et les païens. Il revint encore sur la création d'écoles de langues orientales lors du Concile de Vienne en 1311. Deux ans plus tard, Guillaume Durand le Jeune s'inscrivait dans la même direction avec son Informatio Brevis de Passaggio Futuro adressée à Philippe le Bel. Pour Raymond Étienne, en 1332, parmi les quatre motifs de faire le passage, le second est le désir de la dilatation de la foi et du non-chrétien, car les chrétiens sujets de l'Église romaine ont été chassés par tous dans l'extrême partie du monde et une partie bien petite même pas la dixième partie du monde. Donc il parlait de l'Europe, bien sûr. C'est aussi l'occasion pour l'auteur de dresser un tableau géographique des bons et mauvais chrétiens à qui il faut restituer la vérité de la foi. La théorie des deux glaives reçut une nouvelle vigueur au milieu du XVe siècle dans le débat et la correspondance entre, d'une part, Jean Germain, partisan du glaive temporel, et d'autre part, Jean de Ségovie et Nicolas de Cuse, partisans du glaive spirituel. Une autre justification que nous trouvons sous la plume des auteurs de projets de croisade est la réaction aux injures, à l'épanchement de sang et aux grandes hontes que les mécréants ont causées aux chrétiens par le passé, pour reprendre les expressions de Hayton en 1307. Philanse de Padoue a traité de l'injure, mais uniquement entre chrétiens, à qui il rappelait l'enseignement biblique. « Ne pas en causer si on ne veut pas en recevoir », avec une citation de Tobie et une autre de saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Mais rien de tout cela ne s'appliquait bien sûr aux infidèles. Le thème du sang versé, est un leitmotiv qui revient à travers tous les projets de croisade. Il y a d'abord le sang que le Christ a versé lors de sa passion et qui, avec sa vie et sa mort, a rendu sainte la terre à recouvrer. Et puis, le sang versé par les chrétiens, par la main des Sarrasins. Citons un projet anonyme, le Memoria, commencé à être rédigé avant 1289 et rendu au pape Clément V en 1308, dans lequel les auteurs se lamentent, je cite, « le sacrifice douloureux de la perte de la terre sainte que le Christ a rachetée de son sang précieux, et dans laquelle, par la suite, le sang des chrétiens était répandu par la main des ennemis de la foi chrétienne pour la perte de la dite terre. » C'est sans doute Philippe de Mézières, à la fin du XIVe siècle, qui a le plus développé ce thème du sang versé, notamment dans sa dernière œuvre, une épître lamentable et consolatoire, rédigée après la défaite de Nicopolis. Il part dans ce texte du sang versé par les morts de Nicopolis pour en venir à la plaie béante de la chrétienté latine que lui, bon samaritain, s'efforce de soigner et son remède est la chevalerie de la passion de Jésus-Christ. La passion, c'est une nouvelle référence au sang. L'histoire était une raison fondamentale de la croisade. Citons Philanse de Padoue, juste avant la chute d'Acre. La terre est dite sainte par excellence parce qu'elle a été sanctifiée par le Christ Seigneur. En effet, le Christ fut conçu à Nazareth. Il est né à Bethléem et il a souffert à Jérusalem. D'où on dit la terre sainte avec raison, parce que le Christ l'a sanctifiée de son sang précieux, l'a sanctifiée par son baptême, l'a sanctifiée en la parcourant, en y prêchant et en y faisant des miracles. À cela, le grand maître de l'hôpital Fouque de Villaret et ses conseillers ajoutaient, de manière eschatologique en 1307-1308, que le Christ s'était sacrifié et était ressuscité pour sauver les chrétiens du péché originel au moyen du baptême, pour leur donner en partage son patrimoine et son royaume, nous l'avons déjà vu, et qu'au jour du jugement dernier, il viendra juger les morts et les vivants dans la terre sainte. Dieu s'étant donc incarné dans l'histoire et sur une terre précise, la reconquête des lieux saints était une nécessité historique, présentée sous diverses formes selon les auteurs, religieuses ou politiques. Philanse de Padoue, pour en revenir à lui, était imprégné de culture biblique et il remontait au début de l'histoire sainte. Après avoir appartenu aux gentils, aux juifs, aux assyriens et chaldéens, aux romains, aux chrétiens et aux sarrasins, la terre sainte devait revenir aux chrétiens. En 1321, Marino Sanudo Torcello, qui connaissait sans doute le traité de Philanse de Padoue, est remonté, lui, au partage de la terre entre les fils de Noé, et a donné une histoire détaillée du Proche-Orient en partant de la Genèse jusqu'aux dernières croisades. En 1451 encore, dans son discours du voyage outre-mer à Charles VII, Jean Germain a suivi un autre découpage historique, se limitant à la seule histoire chrétienne. D'abord de la naissance du Christ à Mahomet, période durant laquelle le christianisme s'est répandu en Europe, en Afrique, en Asie, jusqu'en Inde, et plus récemment à son époque jusqu'en Tartarie. Ensuite, de Mahomet aux croisades, avec l'exemple de Charlemagne, ancêtre de Charles VII, qui, lors de son voyage à Jérusalem et à Constantinople, a rétabli le christianisme sous l'empereur romain d'Orient. Après, l'époque des croisades, avec la lutte contre les Turcs, et enfin, après la grande défaite de 1187, la perte de Jérusalem. Malgré le rétablissement de la Terre Sainte sous Saint-Louis, le sultan d'Égypte avait multiplié les conquêtes, dont Acre en 1291, et ne respectait pas les différents accords concernant le pèlerinage au lieu saint. Comme un certain nombre d'auteurs étaient français, pour eux, il était du devoir du roi de France de partir en croisade. Prenons l'exemple de Raymond Étienne. Il rappelait à Philippe VI qu'il ne devait pas amoindrir l'honneur de ses prédécesseurs, ni leur gloire acquise par leurs bonnes œuvres et actions vertueuses en faveur de la foi, mais au contraire, les augmenter, car depuis que la lignée des rois de France avait reçu le baptême, depuis Clovis, ceux-ci ont toujours été l'écu victorieux de la foi, le bras de l'Église, le marteau et la pierre très dure de la croix et de la foi, portant des coups et abattant les ennemis de Dieu, la colonne très ferme de la lumière de l'exemple dans les passages et les autres biens, précédant, surpassant, enseignant et dirigeant tous les rois et peuples chrétiens, comme on peut le lire dans les histoires des anciens auteurs. L'excellence de la lignée des fleurs de lys fut développée la même année, 1332, par Philippe de Vitry, dans son poème « Le chapelle des trois fleurs de lys », c'est-à-dire science, foi et chevalerie, que l'on retrouve sur l'écu royal. Il est une dernière justification de la croisade donnée par les auteurs, la prophétie. Dans sa suite des dominations de la Terre Sainte, Fidence de Padoue est persuadé de la domination chrétienne définitive à cause de la lecture du livre de Clément, donc le successeur de Pierre, qui aurait reçu les révélations que le Christ aurait faites à son apôtre, un faux composé par des chrétiens orientaux dont une première version avait circulé lors du siège de Damiette en 1218. Fidence de Padoue a lu une nouvelle version lors du siège d'Antioche par Baïbars en 1268, dans un texte, dit-il, arabe traduit du grec. Quand l'hospitalier anglais Roger de Stangrave rédigea son escarboucle d'armes de la conquête précieuse de la Terre Sainte de Promission pour le roi Édouard III d'Angleterre en 1332 sans doute, la première chose qu'il fit fut de citer plusieurs prophéties. Une de Merlin, selon laquelle Windsor, donc un jeu de mots sur le vent qui sort, allait conquérir la France, son héritage de droit. Une autre, Sarrazine, ou pseudo-Sarrazine, selon laquelle, et là il le cite en arabe, Jalal Edward Windsor, donc Majesté Edward Windsor, allait détruire les pays des païens, entendre des Sarrasins. Et une troisième prophétie, tirée du livre de Morholt, inconnu par ailleurs, selon laquelle le roi Édouard allait diriger son armée de Gascogne en France, de France en Espagne, d'Espagne en Afrique, et de là jusqu'à Jérusalem. On retrouve le thème de la prophétie de la destruction imminente de la loi de Mahomet circulant parmi l'entourage du sultan d'Égypte ou même parmi le peuple musulman. On trouve ces mentions chez Éton en 1307, chez Guillaume Adam vers 1317 dans son De modo saracendo sextipendi, chez Philippe de Mézières dans le songe du vieil Perrin en 1389. Et pour le roi de France lui-même, nous pouvons rappeler les prophéties entourant le nom de Charles VI, rapportées notamment par Eustache Deschamps, le cerf-volant qui soumettra l'Orient musulman, ou Charles, nouveau Charlemagne, qui conquérera Jérusalem, la terre d'outre-mer. Cette dernière prophétie fut reprise pour Charles VIII à la fin du XVe siècle. En effet, Charles, triplement couronné des couronnes impériales d'Orient, d'Occident et d'Orient, et de la Terre Sainte, viendrait les remettre au Christ sur le mont des Oliviers avant de disparaître. Quand il étudiait ses auteurs dans la première partie de son mythe de croisade, Alphonse Dupron s'étonnait qu'ils ne parlassent pas de guerre sainte. On peut trouver dans les textes les expressions « saint passage », comme par exemple chez Catherine de Sienne dans les années 1370, ou « saint voyage », comme par exemple dans le fameux vœu du duc de Bourgogne Philippe le Bon lors du banquet du Faisan en 1454. Mais effectivement, je pense que la croisade n'était pas considérée comme une guerre sainte. À ma connaissance, un seul auteur s'est intéressé à la nature de la guerre qu'il fallait mener. Il s'agit de Fidence de Padoue, qui consacre un chapitre à la guerre juste. Notons qu'assez curieusement, ce chapitre est inséré, sans logique apparente, entre des développements pratiques sur la flotte et sur l'armée de parterre. La théorie du guerre juste du frère mineur n'est absolument pas fondée sur les écrits de saint Augustin, des théologiens ou des docteurs en droit canon, mais uniquement sur des textes bibliques. Son but est que les chrétiens puissent combattre contre les Sarrasins par une guerre juste et avec une bonne conscience, et pour que le Seigneur soit avec eux. Et il fait référence à une citation de Deutéronome 20, 10, 13, que je me permets de vous rappeler. « Quand vous vous approcherez d'une ville pour l'assiéger, d'abord vous lui offrirez la paix. Si elle l'accepte et qu'elle vous ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera sera sauvé et vous sera assujetti moyennant le tribut. Que si elle ne veut point recevoir les conditions de paix et qu'elle recommence à vous déclarer la guerre, vous l'assiégerez. Et lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous l'aura livré entre les mains, vous ferez passer tous les mâles au fil de l'épée. » Ainsi, d'une manière juste, les chrétiens pourront demander aux Sarrasins toute la terre sainte qui a été chrétienne, c'est-à-dire, pour le frère mineur, l'Égypte et tout le pays jusqu'à l'Euphrate. Si les Sarrasins acceptent, les chrétiens ne feront pas la guerre, mais maintiendront une force armée sur terre et sur mer. S'ils refusent, ils pourront alors en bonne conscience leur faire la guerre, et leur Seigneur viendra à leur aide. Et il prend comme exemple la manière de faire de Galaad, selon le livre des Juges. Cependant, il est conscient que ceci ne s'accorde pas avec la parole de l'apôtre dans l'Épître aux Romains 13-18, « Vivez en paix, si cela se peut, autant qu'il est en vous, avec toutes sortes de personnes. » Finance de Padoue reconnaît qu'il n'est pas correct de se jeter contre un autre sans avertissement préalable. Aussi, après que l'ennemi est averti et qu'il refuse de se soumettre, par esprit de justice, à ceux qui ont une juste cause, alors il peut être attaqué avec raison. On le voit, l'argumentation de Finance de Padoue n'est pas très développée, comme il reste dans l'ignorance de la pensée contemporaine concernant la guerre juste. Remarquons toutefois que ce grand connaisseur de la Bible ne cite jamais l'une des trois mentions de Bellum ou Bella Domini, dans Exode, roi et paralipomène, ou encore celle Libro Bellorum Domini, dans Nombre, qui, il est vrai, ne lui était guère utile par leur contexte. Et ces guerres, donc, ne sont jamais qualifiées de saintes non plus dans la Bible. Il aurait pu cependant citer le deuxième livre des Maccabées, 15-16. En même temps, le prophète Jérémie avait étendu la main et donné à Judas, Maccabée, une épée d'or en lui disant « Prenez cette épée sainte comme un présent que Dieu vous fait et avec lequel vous renverserez les ennemis de mon peuple d'Israël. » Ceci nous ramène à l'interrogation d'Alphonse Dupron sur l'absence de la guerre sainte dans la littérature de projet. Comme réponse, je vous donnerai le point de vue d'un observateur extérieur contemporain, musulman, Ibn Khaldoun. Entre 1375 et 1378, il rédigea la Mukaddima. Le chapitre 31 du livre 3 est intitulé « Le titre de pape et de patriarche chez les chrétiens et le titre de Cohen chez les juifs ». Et dans la première version de ce chapitre, nous pouvons lire « Dans la religion de Jésus, il n'y a pas beaucoup de lois relatives au commerce des hommes. On n'y trouve que des choses relatives aux bonnes œuvres, car il menait une vie monacale et ascétique, et les chrétiens l'imitaient et s'efforçaient de suivre son exemple. La guerre sainte n'est donc pas une institution religieuse chez les chrétiens. C'est la raison pour laquelle le pape n'a pas d'autorité sur leur roi pour ce qui touche aux affaires de la vie mondaine. Ils lui doivent seulement obéissance pour ce qui est de la religion, car c'est lui qui leur permet d'appliquer les règles du culte de la religion de Jésus dans leurs temples et leurs églises. » Ce texte a été modifié dans la version finale, dont je cite seulement la dernière phrase. « Les chrétiens n'ont pas l'obligation de dominer les autres nations, comme dans l'islam. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'établir leur religion chez eux. » On peut discuter de son interprétation, mais il est clair que pour Ibn Khaldoun, chez les chrétiens, il ne peut y avoir de guerre sainte à cause de la séparation des pouvoirs spirituels et temporels, et parce que le but du christianisme n'est pas la domination universelle. La question de la croisade comme guerre sainte est trop vaste pour l'aborder ici, et se complique dans les débats contemporains, aussi bien académiques que politiques, par la façon dont on traduit le mot « djihad ». Ainsi, je vois que le spécialiste américain du djihad, John Kelsey, dont je n'ai pas encore lu le livre paru récemment, le traduit par « guerre juste ». Donc ceci nous fait entrer dans un autre domaine, ignoré des auteurs de projets de croisade. Ainsi que j'espère vous l'avoir montré, la croisade, reconquête de la Terre Sainte ou des territoires autrefois chrétiens, était conçue comme un devoir moral du chrétien soumis au pape. Il n'était donc plus question de vœux, même si celui-ci apparaît encore de temps à autre, en 1363 avec les rois de France et de Chypre, ou en 1451 puis en 1454 avec le duc de Bourgogne Philippe le Bon. Quant à l'indulgence, j'en ai pas parlé, car pour les auteurs, elle est liée automatiquement, dirais-je, à l'appel papal, et les auteurs s'en préoccupent lorsqu'ils détaillent les aspects pratiques de l'expédition à venir. Nous pouvons ainsi considérer que la croisade est conçue à la fin du Moyen-Âge comme purement formelle, ce qui lui a permis, après la chute des États latins d'Orient, de se perpétuer dans les siècles futurs.
Vous venez d'entendre la communication de Jacques Paviot intitulée « L'idée de croisade à la fin du Moyen-Âge » dans le cadre du colloque organisé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulé le 12 et le 13 juin 2009, consacré aux projets de croisade et leurs objectifs, 13e et 17e siècle.